8e art, le 9e art, l'expression fait encore débat et même auprès des auteurs de BD, par modestie souvent, par humeur, par coquetterie parfois. Parler de 9e art, est-ce que c'est une façon de se mettre en avant, de se prendre au sérieux, de réhabiliter tant bien que mal quelque chose qui n'en a pas besoin? Et qu'est-ce que c'est un art, tiens? Quand on remonte aux origines de la bande dessinée, il y a ce nom qui revient sans cesse et sur lequel s'accordent nombre d'auteurs et de chercheurs, un certain Rodolphe Töpffer, un pédagogue suisse contemporain de Goethe qui fut le premier à proposer ce qu'il appelait une littérature en estampes et qui articulait consciemment texte et image en séquence. Le premier à en publier en grand nombre d'exemplaires et à rencontrer un succès populaire. Mais le premier surtout à théoriser la BD, écrivant à propos de son livre « Histoire de Monsieur Jabot » que les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure, le texte sans les dessins ne signifierait rien, le tout ensemble formant une sorte de roman d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. On est au milieu du 19e siècle et grâce à Rodolphe Töpffer, il se passe quelque chose. Un nouvel art est en train de se dessiner tout simplement parce qu'il se pense comme tel.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un grand nom de la BD hexagonale, deux fois distinguée par le prix du public au Festival d'Angoulême, dont elle est cette année la présidente du grand jury. On lui doit entre autres le truculent best-seller Dans la combi de Thomas Pesquet, ainsi que sa série décapante Tu mourras moins bête, tout un programme. Bonjour Marion Montaigne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous
merci.
Ce matin. Ça a un sens pour vous de parler de 9e art? Ça a quel sens, tiens?
Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que vous parliez de modestie, c'est vrai que les auteurs de BD ils se sous-estiment pas mal je trouve, mais il y a un petit côté que j'apprécie, c'est que on reste proche des gens. Enfin je veux dire nous c'est pas le Festival de Cannes qu'Angoulême, c'est vous pouvez croiser les auteurs dans la rue, ils sont habillés comme tout le monde, on n'a pas des grandes robes avec des bijoux, etc. Mais c'est peut-être dû aussi parce que pendant nos études, c'est pas forcément un art qui est très valorisé. On préfère les arts déco. Il y a un petit côté, on pense que c'est pour les ados, un peu pas attardé. Mais la BD a beaucoup évolué, mais on reste modeste. Ouais, c'est vrai,
Et pourquoi, à votre avis, est-ce que ça a changé? Comment ça a évolué, à votre avis, Marion? Il ne vous aura pas échappé que cette année 2020, c'est l'année de la BD.
Ouais, on en reparlera. Moi, je pense que ça a évolué. Il y a eu beaucoup plus d'auteurs maintenant, il y a beaucoup plus de profils. On a exploré énormément de choses. Là, par exemple, dans la sélection, on a des BD qui explorent des champs vraiment graphiques. Pour moi, c'est comme, il y a des BD qui font de la recherche expérimentale, en fait, et après, le reste de la BD va le récupérer comme en recherche appliquée. Et donc il y a un champ très très large, très riche. Je sais pas, on est bon. On a plein de choses à dire. Et puis encore une fois, c'est très partageable. Enfin, je trouve que la bande dessinée, on commence enfant, on a une sympathie avec, on voit les lecteurs, ils ont un rapport avec la bande dessinée qui est assez pas fusionnel, mais très très amical.
En tant que lectrice, vous, par exemple, qu'est-ce que vous attendez d'une bande dessinée?
Ah, moi, j'attends, mais comme un film, je veux que ça change mon quotidien. Je veux être dans la vie de quelqu'un d'autre, donc je veux oublier que j'ai des factures à payer. Donc, je suis très sensible au personnage, à l'histoire. Évidemment, c'est très bateau ce que je dis, mais vraiment un bon scénario. Après, je suis très très tolérante en dessin. On le voit avec mon travail. C'est vraiment la démarche d'emmener le lecteur moi je vois tout le travail derrière, je préfère un auteur qui me prenne par la main et qui m'emmène quelque part plutôt que quelque chose de compliqué. Enfin je veux juste être embarqué, quoi.
Vous vous sentez investi quand même en tant que lectrice.
Merci,
et en tant qu'autrice Marion Montaigne. Et pourtant quand je vous ai dit 2020 année de la BD, vous m'avez dit on en reparlera.
Oui, on va en reparler parce que je pense que on va avoir la visite du ministre. Il a compris, je crois que les auteurs vont pas très bien, voire pas bien du tout. Ça fait plusieurs années qu'on tape du poing sur la table. Donc là, on sent qu'il se bouge pour essayer de nous montrer qu'il nous écoute, mais je suis sceptique. Voilà.
Lutter contre la précarité des auteurs de bandes dessinées, ça passerait par quoi, selon vous?
Alors, faudrait repenser pas mal la chaîne du livre, la répartition Je vais en parler tout à l'heure, mais il y a énormément. C'est l'un des domaines, depuis 25 ans, il y a une croissance qui ne s'arrête pas. Ça va très très bien. Et pourtant, les auteurs vivent mal. Donc pour moi, c'est comme en agriculture, on a énormément de choses à manger, on ne meurt pas de faim, on peut manger ce qu'on veut, mais les agriculteurs sont en train de mourir. Donc c'est pas en faisant, en disant aux gens acheter du jambon que les agriculteurs vont survivre, c'est en repensant à toute l'industrie, comment elle est fichue, comment elle est.
Et cette précarité, cette réalité financière de votre métier, quand est-ce que vous en avez pris conscience, vous, tout de suite ?
Quand j'ai démarré, quand vous commencez, vous y allez pour l'amour de l'art. De toute façon, vous savez pas vraiment pourquoi vous voulez faire un métier où il y a pas de sécurité. C'est plus fort que vous. Vous tendez vers ça. Après, quand vous comprenez qu'il va falloir travailler jusqu'à 67, 65. Enfin, on sait pas trop maintenant. 65 ans, en faire toute sa vie. Vous commencez à vous inquiéter, à en vivre. Et moi, je pense que non, au début, c'est paradoxalement, j'étais mieux payée ensuite. Ma première BD a été celle qui a été le mieux payée, et après, on a vu tous les prix être divisés par 2, 3, 4, 5. Ouais.
Mais dans quelle mesure est-ce que vous encourageriez, par exemple, Marion Montaigne, ceux qui souhaitent faire votre métier aujourd'hui, les jeunes?
Non, mais c'est quand même un métier passionnant. Enfin, je veux dire, tout est dur. Moi, je trouve être médecin, c'est dur. Être infirmière, moi, je trouve qu'être infirmière, c'est beaucoup plus dur que mon métier. Donc, c'est ce qui vous anime, il faut le faire. On s'en sort des fois, hein, mais on fait plusieurs choses. Des fois, on fait aussi de l'illustration. On peut être polyvalent parce qu'on est on est des métiers hyper, pas diplômés, mais hyper techniques. Enfin, on est sur, on est bon, quoi. Enfin, on peut faire beaucoup de métiers parce que on doit être graphiste, on doit être un peu maquettiste, on doit être coloriste, on est scénariste, on est dessinateur, on est très très polyvalent. Donc, il y a des choses à faire. Faut pas non plus être désespéré, sinon on fait plus rien.
Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on aura toujours besoin de gens qui dessinent?
Ah ben bah, mon Dieu, sinon c'est bon, moi je me tire une balle. on peut dessiner, mais après c'est évidemment la question qu'on a en tant qu'auteur, c'est une fois que j'ai dessiné, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux raconter. Alors vous pouvez vous pouvez raconter des choses très 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 banales, ou vous pouvez vraiment investir des réflexions très 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 poussées. C'est ça qui est intéressant en BD, c'est qu'il y a vraiment un champ très très large. C'est comme ceux qui disent que les mangas c'est que de la violence, c'est totalement faux. Vous avez des mangas juste sur des gens qui se baladent, d'autres qui vont dans l'espace. Enfin, c'est très très varié. J'en ai même oublié votre question.
Pourquoi est-ce qu'on aura toujours besoin, toujours, de gens qui dessinent?
Mais pour s'évader, je pense, parce que sinon sans l'art, on meurt. Enfin, moi je me rends compte que, en tout cas, je me demande que si je marche pas moi aujourd'hui parce que les gens ont besoin de rire tellement ils sont déprimés. Enfin. Ouais. Non, en tout cas en humour.
Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner, vous? Vous vous souvenez?
Non, je me souviens pas. Mais j'ai continué. Je crois que j'ai pas abandonné adolescente. C'est la différence.
Donc toute petite, vous dessiniez déjà, et vous dessiniez quoi?
Oh, je devais dessiner papa, maman, la maison, le soleil. après, je pense que la différence, c'est que ça vous fait le petit bonus qui vous différencie de vos frères et sœurs, et donc après vous continuez parce que de toute façon vous êtes c'est ce qui vous fait vivre. Souvent au collège, les dessinateurs sont pas super doués pour être les fanfarons de la classe, donc ils se font remarquer avec des dessins, puis après ils continuent.
Ah, là vous êtes en train de nous révéler quelque chose.
Oh bah,
Marion Montaigne,
c'est pas un scoop.
Vous dites souvent que ce qui vous anime quand vous dessinez, c'est pas nécessairement la recherche de la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, moi j'ai pas un dessin où je vais passer 5 heures sur une case pour une perspective parfaite, un paysage magnifique. Moi, ce que je veux, c'est juste l'idée. Je vois ça comme un one man show, mais mes personnages, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils soient très dynamiques, et donc pour ça, si le personnage doit faire que 2 traits, c'est pas grave. Enfin, je veux juste qu'on le voit jouer. C'est le jeu qui est très important. Mais après, si je m'applique et que je me donne un peu du mal, j'ai appris à dessiner correctement. Mais ça c'est pas ce qui me sert, en fait, pour ce que j'ai à dire. Moi, Thomas Pesquet, il se ressemble pas beaucoup. C'est une sorte de Tintin, mais j'avais besoin de quelqu'un qui soit un peu qui marche un peu avec les bras arqués, parce que il est costaud, donc c'est une sorte de caricature, mais il fallait qu'il vive. Il est très vivant, il bouge d'une certaine manière.
Alors qu'est-ce que ce serait, non pas un beau mais un bon dessin pour vous?
Eh ben, un bon dessin, c'est celui qui est vivant, vraiment, où l'idée passe avec très peu de moyens. Moi, il y a des fois, il y a des dessins très très classiques, très avec beaucoup de détails. Je trouve qu'ils ressemblent moins à la personne qu'avec juste de traits. Ou... Mais ça, c'est tout l'art du dessin, capté en très très peu l'essence même de.
Et de la bande dessinée, ce qui est passionnant, c'est ce que vous dites. Ce sont des éléments qu'on retrouve justement dans la théorisation que faisait Rodolphe Toffler de la bande dessinée au milieu du 19e siècle. Celle qui n'est pas bonne. Dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Marion, c'est la culture et son actualité sans empathie aucune. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 16 janvier?
J'avais 21 ans, je sortais de la rédaction de Charlie Hebdo, surexcitée, complètement intimidée, surexcitée, et je sautais de joie, je me disais, j'ai un métier là, c'est un métier.
La BD en majesté, l'autrice de bande dessinée Catherine Meurice a été élue hier à l'Académie des Beaux-Arts et c'est une grande première passée par la rédaction de Charlie Hebdo, l'artiste qui dessine autant pour la presse généraliste que pour la presse jeunesse ou la BD, avait notamment signé en 2016 le très bel album La Légèreté. Depuis hier, Catherine Meurice fait aussi partie du trio final en lice pour le très prestigieux Grand Prix 2020 du Festival d'Angoulême aux côtés d'Emmanuel Guibert et de Chris Ware, You Go Café. Miku de projecteur, elle a des couettes bleues et des airs manga, elle a posé pour Vogue et fait la première partie des concerts de Lady Gaga et pourtant elle n'existe pas, enfin pas physiquement. La chanteuse virtuelle japonaise aux 100 000 chansons pop, Hatsune Miku, est ce soir en concert au Zénith de Paris, créée par une boîte de logiciels audio à partir d'hologrammes. L'idole Vocaloid sera aussi l'une des stars de la prochaine édition de Coachella en avril, on n'arrête plus le progrès. La Biac d'abord, et parlons pour la musique. C'est aujourd'hui que débute la troisième édition de l'Entre-deux Biennale, rendez-vous international des arts du cirque en PACA. Pendant un mois, l'événement invite près de 17 compagnies venues du monde entier à enchanter le mois de janvier. En salle ou sous chapiteau axé autour de la nature, la manifestation propose notamment le spectacle d'adieu du cirque Plume ou le show capillotracté du collectif Merken pour évoquer la lutte féminine contre la dictature chilienne. On aime. Une playlist qui a du chien. Enfin, la plateforme Spotify vient de mettre en ligne un service de streaming pour les animaux de compagnie, soit une sélection de playlists pour chats, chiens, hamsters ou iguanes, ainsi qu'un podcast anglais pour déstresser et tenir compagnie aux chiens laissés seuls à la maison par leur maître. Créée avec l'aide de chercheurs en comportement animal, l'offre permet d'adapter le choix des morceaux et des programmes en fonction du caractère et du type de bête. Miaou. Marion Montaigne, présidente du grand jury de la 47e édition du Festival d'Angoulême. On le disait, qui débutera dans 15 jours. Ce festival, Marion, c'est pas seulement l'occasion de célébrer le 9e art, c'est aussi un lieu de débat. Et parmi les questions épineuses et récurrentes, il y a toujours celle de la place des femmes dans le milieu de la BD. Pourquoi y a-t-il encore si peu de femmes qui font votre métier ?
Bonne question. Je pense que c'est... Alors c'est des théories. Hein. Je pense que moi quand je réfléchis, j'ai pas eu beaucoup de modèles femmes dans la BD. Enfin, je me suis rendu compte j'avais Natacha, la thèse de l'air. Je pense qu'il y a
vous
des
parlez de personnages de
bande personnages, dessinée. Et puis même en tant qu'auteur, c'est vrai que je pense que ça a vraiment une importance de voir des femmes faire de la BD, et parce que les petites filles se disent ah je peux en faire partie. C'est pour ça que moi, quand il y a des concerts de dessin, etc., je vais sur scène pour montrer que, bon, voilà, il y a aussi des femmes, c'est très important.
Parce que quand vous étiez petite, qui étaient les femmes autrices de bandes dessinées?
Alors, il y avait Brett Escher, mais sinon, il y avait Sestak, mais je ne connaissais pas encore très bien. Mais je ne sais pas, j'en connaissais pas, mais il faut dire aussi que je m'en fichais aussi, peut-être que ce soit un homme ou une femme qui les fasse. Mais je pense que.
Ça donne quand même des supports d'identification, vous avez raison.
Ah oui, moi, je trouve ça important parce que moi, souvent, je me suis dit dans certains métiers. Alors, à un moment, je voulais être maréchal Ferrand. Je me suis dit,
très bon métier.
Je pourrais pas. Il y a pas de femmes. Bon, je suis un peu petite aussi, mais vous dites ça quand vous êtes une gamine. Mais il y en a. Hein. Donc, je pense que il faut se montrer, il faut faire partie du paysage. Mais aussi, je pense que il y a moins de femmes parce que c'est plus dur. Je pense qu'il déjà que c'est assez dur de percer dans la BD, mais si en plus vous devez avoir une vie de famille, vous êtes vraiment pénalisé. Je vois beaucoup d'autrices très talentueuses, elles ont des enfants, elles ont du mal à juguler les deux. Ouais.
Vous avez manqué de confiance, vous, beaucoup, dans votre parcours?
Mort. Non, mais encore aujourd'hui. Non, j'ai pris beaucoup de temps à me dire que je faisais partie de la famille professionnelle de la bande dessinée. C'est peut-être quand j'ai eu un prix où je me suis dit, ah bon, alors je suis vraiment professionnelle. Pourtant, ça faisait, je sais pas, 10 ans que j'en faisais.
D'ailleurs, je crois savoir que vous avez toujours été féru de science et que pourtant, au moment de choisir votre orientation au lycée, vous avez renoncé à choisir une filière scientifique alors que c'est ce que vous vouliez.
Oui, mais parce que je me suis beaucoup dévalorisée. Je pensais qu'il fallait être vraiment un génie. J'étais bonne élève, mais je pensais qu'il fallait avoir 18 sans réfléchir. Et donc, je me suis dit que j'étais trop nulle. Mais après, depuis, des chercheuses m'ont dit que ça, c'était bien un truc de femme de se dévaloriser. Après, je sais pas, c'est peut-être ma personnalité, mais oui, ça a été très chaotique. J'ai pas eu une révélation à 8 ans en me disant je serai auteur de BD ou je serai chercheuse. Ça a été un gros tâtonnement, ça a été pas.
En tout cas, ces deux vocations, on les retrouve dans cette série Tu mourras moins bête. Comment est-ce qu'elle est née, cette série de BD?
Elle est née un peu tout d'un coup. En fait, je lisais pas mal de revues. J'aime bien raconter des trucs que j'ai lus à table, ce qui dégoûte tout le monde. Et donc, je me suis dit, je vais le mettre sur papier et qui voudra regardera.
Mais comme quoi, par exemple?
Ah, mais moi, je peux vous raconter le curetage d'un intestin que j'ai vu à France 5, au journal de la France.
Nécessaire,
moi,
9h23, Marion.
Je trouve ça hyper intéressant. Mais ça dégoûte tout le monde. Mais donc, j'en ai fait des BD parce que faut que ça sorte, si je puis dire. Et en fait, les gens s'intéressent. Au début, les éditeurs me disaient « Mais qui se pose des questions comme ça? C'est absolument stupide. » Et en fait, la plupart des gens sont très, très intéressés parce qu'ils ont besoin de...
Ça a toujours été le cas où vous posiez des questions tout le temps. Quelles questions gênantes est-ce que vous vous posiez ou vous posiez aux autres quand vous étiez petite, par exemple, Marion Montaigne?
Comment les trucs marchent, non, mais comment on va mourir? Est-ce que je vais souffrir? Ou sur Internet, je vais vraiment regarder le pire en me disant « Si je vois quelque chose d'horrible, je saurais le surmonter. Donc je m'oblige à regarder des comptes Instagram de médecins absolument horribles. Et comme ça, je me dis, si quelqu'un dans le métro se coupe un bras, je saurais l'aider.
C'est vrai que maintenant, vous allez chercher les réponses à vos questions vous-même, auprès des scientifiques notamment. Vous en écrivez et dessinez les réponses avec une certaine liberté de ton, un certain goût pour le détour aussi. Dernièrement, quelle a été la question la plus saugrenue à laquelle on vous ait répondu? Un chercheur, par exemple?
Récemment, on a discuté de l'utilisation des cadavres dans les crash tests avec un copain biomécanicien.
Et que... vraiment, on a tous envie d'être votre copain ce matin, là. Vraiment, c'est...
Non, mais il faut faire. Non, mais c'est vraiment intéressant, les coulisses. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est que la science, elle a des questions et à un moment, il faut qu'elle y réponde. Par exemple, est-ce qu'un siège enfant, ça marche? Eh ben, comment vous le testez? Vous n'allez pas mettre un enfant dedans?
Non.
Donc, il y en a qui ont essayé de mettre des cadavres de nains, je suis désolée, aux États-Unis. C'est horrible. C'est horrible, mais en même temps, c'est drôle. Mais c'est pas drôle. Enfin, moi, ça me fait rire.
Waouh!
Et bon, ça existe. Là,
on a compris.
Non, mais on atteint un monde absurde, en fait. Mais il faut le faire. Donc, voilà.
Comment on fait surtout pour donner une réponse simple à un problème complexe?
Parce
que c'est ça que vous faites.
Le dessin permet de faire ça. On va métaphoriser, on va transformer. C'est des débats aussi que j'ai avec des chercheurs. C'est que je peux personnaliser une cellule, je peux personnaliser un organe, ce qui est absolument impossible. Ce que certains chercheurs me disent, mais simplifier, c'est mentir. Mais l'idée, c'est vraiment rendre accessible au moins ne serait-ce que le début de l'info. Et après, on va chercher plus loin si on a envie.
La curiosité, en fait. Quelle qualité est-ce que c'est pour vous, Marion Montaigne? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui vous anime.
De chercher comme ça, mais, je sais pas, moi je trouve ça fascinant. Moi, ça me sort de mon quotidien qui est pas folichon, hein. Enfin, qui est pas fantastique. Je reste assise toute la journée et ça... Je sais pas, moi je trouve que c'est ça va dans l'imaginaire, la science n'arrête jamais. Et mais c'est ce que je disais, vous auriez jamais imaginé ce que je vous ai raconté dans un scénario de film. Et pourtant la réalité est toujours plus folle que...
Faites-moi confiance, je l'aurais jamais imaginé, je l'aurais pas validé non plus. Ça, je voulais...
Personne vous aurait cru, vous aurait dit que vous allez beaucoup trop loin. Et c'est tout le temps comme ça en fait.
Qu'est-ce qui nous rend moins bêtes pour vous?
La curiosité, être ouvert, lire, écouter, mais vraiment la curiosité. C'est une prof de dessin m'avait dit, même si vous dessinez des illustrations, etc., instruisez-vous, soyez curieux, parce que sinon ça sert à rien.
C'est pas mal ça, c'est tout un programme ça. Évidemment, on va en reparler et continuer à se secouer un peu les méninges juste après le Tigre et Decepticon en 1999. Vous êtes sur France Inter avec Marion Montaigne. Vous écoutez Boomerang.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
C'est la petite dernière en fait, c'est la cadette éternelle, vous savez, celle qui est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe, qui a grandi au milieu des conversations d'adultes et des beuglements de préadolescents, et qui, pour avoir la paix, a préféré se retrancher peinard dans sa chambre, avec ses crayons de couleur et sa Game Boy. Elle a eu malin, le cheveu décontracté, le sourire pince sans rire, avec son petit chemisier bleu marine à pois blanc ce matin. Marion Montaigne, invitée de Boomerang, pour parler de bande dessinée évidemment. Et ce qui frappe chez vous, Marion, c'est cette façon de dessiner très reconnaissable, votre trait, votre façon de dessiner. Comment est-ce que vous les avez trouvés, justement?
C'est venu assez naturellement. C'est un peu comme une écriture. Je réfléchis pas trop à comment on fait pour dessiner un chien. Enfin, il y a des auteurs qui se posent vraiment la question. Il faut qu'ils réfléchissent à comment est fait quelque chose, un vélo. Moi, je largue un peu comme ça, mais c'est vraiment, je vois ça comme une écriture. C'est pour ça qu'on disait que ça va pas être forcément beau, c'est pas une belle calligraphie, mais on le reconnaît, et puis c'est assez vif.
Ça, c'est vous qui le dites que c'est pas beau. Ça fait près de 15 ans, en tout cas, que vous publiez votre dessin. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer avec les années? Je suppose qu'il a progressé.
Mais il a progressé parce qu'après, au fur des années, je me suis respectée. Enfin, non, mais c'est vrai, parce qu'au début, je dessinais, je me suis un peu sabordée, comme j'avais pas très confiance en moi. Je prenais pas du super matériel. Je trouvais ça nul, donc j'avais du mal à le regarder. Maintenant, je le vois mieux, je l'interprète mieux, je le respecte mieux. Donc, je prends plus de plaisir à en prendre soin. Mais ça, c'est un rapport.
Mais c'est toujours la même technique, en revanche.
C'est toujours la même technique. Je pourrais passer au numérique, mais j'ai pas encore trouvé le truc qui a un côté que la plume, le côté grinçant qu'a la plume. C'est un truc très particulier. Je vais peut-être être la vieille la plus qui va encore rester sur ce truc en papier, mais J'aime bien parce que ça me refait revenir sur du truc concret.
Il paraît que vous n'utilisez pas de crayon à papier parce que après avoir fait quelques croquis au stylo bille, vous lancez directement à l'encre de Chine.
Oui, directement. Enfin oui, je fais pas de brouillon. En fait, je vais faire 42 fois la même case, mais il faut pas qu'elle soit faite sur par-dessus un crayonné parce que sinon ça va être mou. Donc
c'est toujours cette idée de mouvement et de dynamique.
Oui,
en
oui
fait.
Et puis on va garder que celui qui est bon. C'est vraiment donc mes planches sont imprésentables. Il y a 43 cases 4, 23 et des petites rustines. Donc c'est pas présentable.
La question aussi, Marion Montaigne, c'est comment faire rire avec un dessin.
Faut l'amener.
Ça veut dire quoi?
Il y a des techniques, le gag, ça s'amène. C'est ce que vous disiez au début en introduction. Il y a un texte qui amène le gag. Sans le texte, on comprend pas le texte s'il n'y a pas le dessin. Et sans le dessin, on comprend pas le texte. Donc les deux interagissent. Et moi, en plus, il y a beaucoup de voix off qui, il faut vraiment que le lecteur soit occupé à lire la voix off. Et hop, comme une diapo, il a une surprise. Et moi, je suis très obsédée par le fait que le rythme, je travaille à mort pour que le public ait une aisance et une facilité à lire. C'est à moi de faire le travail pour que ce soit très rapide.
Mais le texte, à quel moment il intervient? Vous le pensez en même temps que l'image?
Mais en plus, moi, je déteste les phrases très très longues, enfin les bulles à rallonge, parce que pour moi, le personnage, il est pas figé. Il joue pas pendant ce temps-là. Donc, je préfère faire 43 dessins et couper sa phrase en 12 plutôt que le gars, il est statique comme une statue. Et puis, pour moi, il y a un problème de timing s'il donne un coup de poing tout en racontant sa vie, quoi.
Qu'est-ce que vous trouvez drôle, vous, Marion?
Qu'est-ce
qui vous fait rire?
Les trucs horribles en science,
ça on a compris. Il n'y a pas de problème, c'est.
Non, il y a certains humoristes que j'aime bien. Non, les trucs absurdes, vraiment absurdes. Le décalage, un peu comme Chris Esker que j'écoutais tout à l'heure. Je sais pas, mais je rigole pas beaucoup. Par contre, c'est très dur de me faire rire. Je suis très pénible à ce niveau-là.
En tout cas, ce dont votre travail témoigne quand même, c'est d'une extrême liberté de ton. Quel espace de liberté est-ce que c'est pour vous le dessin justement?
C'est très personnel. Enfin, moi, je pense c'est quand même particulier comme art. Hein. On dessine dans des cases. On met des textes dans des bulles. C'est très fermé. C'est un truc un peu de personne qui est cloîtrée chez soi. Enfin, c'est vraiment, on crée son petit monde. Je pense qu'on est.
C'est toujours le lieu privilégié d'une liberté d'expression. 5 ans après Charlie Hebdo.
Oui, je pense que le dessin,
ouais.
Ben, je trouve que c'est quand même... Après, c'est tout un art, hein, le dessin de presse. Hein. C'est vraiment... c'est pas parce que vous faites un dessin avec un bonhomme qui dit quelque chose que c'est drôle. Il faut que ça amène en plus une réflexion. Donc c'est très, très difficile, le dessin de presse. Nous, on nous avait demandé de faire des dessins après Charlie Hebdo. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas dessinateur de presse. C'est aussi... Il faut que ce soit piquant, que ce soit avec moins d'informations, que ça en dise beaucoup, mais ça peut être très très fort, paradoxalement, avec très peu d'éléments, d'amener une information qui va faire chez le lecteur une réflexion, c'est percutant. Quoi.
Vous avez écrit un texte, Marion Montaigne, pour terminer émission.
Oui, parce que c'est bientôt le festival d'Angoulême, alors j'ai essayé de le lire vite.
Et la grande année de la BD.
Et la grande année de la BD 2020. Alors j'y vais. Comme tout le monde en janvier, Vincent Montagne, le président du SNE, le syndicat des éditeurs, fait des vœux durant lesquels il se félicite à raison de la bonne santé du secteur de la BD. Plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un contexte de crise éternelle, c'est vraiment balèze. Quand il présente ses vœux, le chef des éditeurs n'oublie pas les auteurs. Il a une pensée pour ceux qui sont à la base de toute son industrie et qui vivent pour l'essentiel sous le seuil de pauvreté, qui se débattent dans un cadre administratif absurde et qui travaillent pour rien ou presque. Il leur dit « Je ne veux pas que l'État vienne se mêler de notre relation ». Alors pourquoi? Parce que l'État précisément a demandé à une commission de se pencher sur la situation des auteurs. Et ce texte existe, c'est le rapport Racine, et il semble avoir été égaré par le ministre Riester. Alors en attendant qu'il soit dévoilé, redoutant... peut-être ses conclusions, le patron des éditeurs prévient, pour lui c'est niet. Non à un éventuel rééquilibrage du rapport de force, non aux auteurs, qui voudraient vivre de leur travail, non à une meilleure répartition des droits. Bref, les éditeurs veulent que tout reste comme avant et on les comprend. Alors 2020, année de la BD, des parrains de prestige, une affiche formidable, peut-être même un président de la République au Festival d'Angoulême, mais pas le moindre début de mesure concrète pour ceux qui font de la BD, rien. Nous, on aimerait que le ministre Riester se réveille, proclamer son attachement à la BD, nous écouter avec gravité, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Aujourd'hui, ce que nous demandons pour commencer, c'est de lire le rapport Racine. Contrairement aux éditeurs, nous n'en avons pas peur. Nous voulons savoir ce qu'il dit, savoir ce qu'il constate et surtout ce qu'il propose. Nous voulons nous mettre au travail pour améliorer la situation du livre et de sa création. Alors cette année, merci de ne pas nous endormir avec la promesse de nouvelles commissions, d'une décennie de la BD ou d'un centre intergalactique des livres de l'image. Cette année, on veut aller au festival en lisant le rapport Racine dans le train. On veut que le ministre le retrouve et le libère, qu'on ne finisse pas par croire que cette année de la BD n'était qu'un soutien industriel plutôt qu'une véritable réflexion sur les conditions de la création et la situation des auteurs. Nous avons hâte de vous voir à Angoulême, monsieur et Esther, mais si vous avez oublié le rapport, s'il vous plaît, épargnez le budget de l'État et restez chez vous.
Comme ça, c'est très clair, Marion Montaigne. On espère que Franck Riester écoute la radio et France Inter, notamment. On se pose la question, parfois. Merci en tout cas, Marion, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que la 47e édition du Festival d'Angoulême ouvre ses portes le 30 janvier, mais aussi que le dernier tome de votre série « Tu mourras moins bête » vient de paraître aux éditions Delcourt. Tout de suite, Lettre infinie. M.
L'envers de l'enveloppe est inscrit, tout en bas écrit en tout petit,
majuscule loyale et discrète.
J'ai fait une drôle de tête, un drôle de soupir. En la retournant de l'autre côté, un nouveau message à décrypter.
Mais lui des ailes, c'est une déesse.
À cet instant fébrile, j'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. L'être infini que je suis.
L'être infini.
Parce que ta bouche a une fausse note, que c'est la perfection divine.
L'être infini, infini.
Pourquoi dans l'or c'est toujours quand ça frotte, quand ça trébuche que l'on s'incline.
L'être infini, infini.
Voilà soudain à quoi j'ai pensé devant cette lettre immaculée. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? Que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. Oh, l'être infini que je suis.
L'être infini.
Une lettre dans la lettre, en quelque sorte.
L'être infini, infini.
Une page blanche avec au beau milieu un simple M. Une simple lettre, celle de l'amour avec des ailes.
L'être infini.
Sans un mot, tout est dit, infiniment et pour la vie.
Je relis
l'être infini.